Maxime Gorki, La mer. Première partie, Grand 1. Tous les jours, dans l'atmosphère enfumée et grave du faubourg ouvrier, la sirène de la fabrique jetait son cri strident. Alors, des gens maussades, aux muscles encore là, sortaient rapidement des petites maisons grises et couraient comme des blattes effrayées. Dans le froid demi-jour, ils s'en allaient par la rue étroite vers les hautes murailles de la fabrique qui les attendaient avec certitude et dont les innombrables yeux carrés, jaunes et visqueux, éclairaient la chaussée boueuse. La fange claquait sous les pieds. Des voix endormies résonnaient en rauques exclamations. Des injures déchiraient l'air. Et une onde de bruit sourd accueillait les ouvriers. Le lourd tapage des machines, le grognement de la vapeur. Sombres et rébarbatives comme des sentinelles, les hautes cheminées noires se profilaient au-dessus du faubourg, pareilles à de grosses cannes. Le soir, quand le soleil se couchait et que ses rayons rouges brillaient aux vitres des maisons, l'usine vomissait de ses entrailles de pierre toutes les scories humaines et les ouvriers, noircis par la fumée, se répandaient de nouveau dans la rue, laissant derrière eux des exhalaisons moites de graisse de machines. Leurs dents affamées étincelaient. Maintenant, il y avait dans leur voix de l'animation et même de la joie. Les travaux forcés étaient finis pour quelques heures. À la maison, les attendaient le souper et le repos. La fabrique engloutissait la journée. Les machines suçaient dans les muscles des hommes toutes les forces dont elles avaient besoin. La journée était rayée de la vie, sans laisser de traces. Sans s'en apercevoir, l'homme avait fait un pas de plus vers sa tombe. Mais il pouvait se livrer à la jouissance du repos, au plaisir du cabaret sordide, et il était satisfait. Les jours de fête, on dormait jusque vers 10 heures du matin. Puis, les gens sérieux et mariés revêtaient leurs meilleurs habits et s'en allaient à la messe, reprochant aux jeunes gens leur indifférence en matière religieuse. Au retour de l'église, on mangeait des pâtés. Ensuite, on se couchait de nouveau jusqu'au soir. La fatigue amassée pendant de longues années enlevait l'appétit. Afin de pouvoir manger, il fallait boire beaucoup, exciter l'estomac indolent par les brûlures aiguës de l'alcool. Le soir venu, on se promenait paresseusement dans les rues. Ceux qui possédaient des caoutchoucs les mettaient lors même qu'il faisait sec. Ceux qui avaient un parapluie le prenaient, même par un beau soleil. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir des caoutchoucs et un parapluie. Mais chacun désire surpasser son voisin, d'une manière ou de l'autre. Quand on s'en rencontrait, on s'entretenait de la fabrique, des machines, on invectivait les contremaîtres. Les paroles et les pensées ne se rapportaient qu'à des choses liées au travail. L'intelligence malhabile et impuissante ne jetait que de solitaires étincelles, qu'une faible lueur dans la monotonie des jours. En rentrant, les maris cherchaient querelle aux femmes et les battaient souvent, sans épargner leurs forces. Les jeunes gens restaient au cabaret ou organisaient de petites soirées chez l'un ou chez l'autre, jouaient de l'accordéon, chantaient des chansons stupides et ignobles, dansaient, se racontaient des histoires obscènes et buvaient avec excès. Exténués par le travail, ces hommes s'enivraient facilement, et dans chaque poitrine se développait une surexcitation maladive, incompréhensible, qui voulait une issue. Alors, pour n'importe quel prétexte, ils s'attaquaient mutuellement avec une irritation de fauve. Il se produisait des risques sanglants. Dans les relations des ouvriers entre eux, ce même sentiment d'animosité aux aguets dominait. il était aussi invétéré que la fatigue des muscles. Ces êtres naissaient avec cette maladie de l'âme, héritage de leur père. Comme une ombre noire, elle les accompagnait jusqu'au tombeau, les poussant à accomplir des actes hideux par leur cruauté inutile. Les jours de fête, les jeunes gens rentraient tard, les vêtements en lambeaux, couverts de boue et de poussière. Les visages meurtris, ils se vantaient des coups qu'ils avaient portés à leurs camarades. Les injures subies les courrouçaient ou les faisaient pleurer. Ils étaient pitoyables et ivres, malheureux et répugnants. Parfois, c'étaient les parents qui ramenaient à la maison leur fils qu'ils avaient trouvé ivre mort dans la rue ou au cabaret. Les injures et les coups pleuvaient sur les enfants, abrutis ou excités par l'eau-de-vie. Puis, on les mettait au lit avec plus ou moins de précaution, et le matin, on les réveillait dès que le rugissement de la sirène fendait l'air. Bien qu'on injuriât les enfants et qu'on les frappât, leur ivrognerie et leurs rixes semblaient choses naturelles aux parents. Quand les pères étaient jeunes, ils avaient bu et s'étaient battus aussi. Et leurs pères et mères les avaient corrigés également. La vie avait toujours été pareille. Elle s'écoulait, on ne sait où, régulière et lente comme un fleuve fangeux. Parfois, apparaissaient dans le faubourg des étrangers qui, d'abord, attiraient l'attention, tout simplement parce qu'ils étaient inconnus. Mais bientôt, on s'habituait à eux et ils passaient inaperçus. Ils ressortaient de leurs récits que partout, la vie de l'ouvrier est la même. Et, du moment qu'il en était ainsi, à quoi bon en parler? Il s'en trouvait cependant qui disaient des choses encore nouvelles pour le faubourg. On ne discutait pas avec eux. On ne prêtait qu'une attention incrédule à leurs paroles bizarres, qui excitaient chez les uns une irritation aveugle, chez les autres une sorte d'inquiétude, tandis que d'autres encore se sentaient troublés par un vague espoir et se mettaient à boire encore plus que de coutume pour chasser cette émotion. Si l'étranger manifestait quelques traits extraordinaires, les habitants du faubourg lui en tenaient longtemps rigueur et le traitaient avec une répulsion instinctive, comme s'ils craignaient de le voir apporter dans leur existence quelque chose qui en troublerait le cours pénible mais calme. Accoutumés à être opprimés par la vie, ces gens considéraient toutes les transformations possibles comme propres seulement à rendre leurs joues encore plus lourds. Résignés, ils faisaient le vide autour de ceux qui prononçaient des paroles étranges. Alors ceux-ci disparaissaient, on ne sait où. S'ils restaient à la fabrique, ils vivaient à l'écart, n'arrivant pas à se fondre dans la foule uniforme des ouvriers. Après avoir vécu ainsi une cinquantaine d'années, l'homme mourait.